54. C'est pourquoi tout le monde se tourne vers eux et boit leurs paroles comme de l'eau. Ils déclarent, Dieu ne peut rien remarquer, comment peut-il savoir celui qui est là-haut? Regardez-les, ces gens-là, sans foi ni loi, toujours à l'abri des ennuis. Ils améliorent leur situation. Et un peu plus loin, changement de décor, le psalmiste constate quand même quelque chose. J'étais plein d'amertume, choqué au plus profond de moi-même. J'étais stupide, je n'y comprenais rien, comme une vraie bête devant toi. Et à ce moment-là, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Après que le psalmiste ait constaté tout ça, il a quand même une réflexion qui va un petit peu plus loin. Et on la trouve dans les derniers versets, les versets 25 et suivants. Ici-bas, que désirer de plus, puisque je t'ai? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Je vais le relire. Ici-bas, que désirer de plus, puisque je t'ai, donc j'ai le Seigneur? Mon corps peut s'épuiser, mon cœur aussi, mais mon appui, mon bien le plus personnel, c'est toi, Dieu, pour toujours. Donc on constate de temps en temps que les autres vont bien, ils sont en riches, en bonne santé, tout leur réussit, ils n'ont pas d'ennui. Mais le psalmiste nous rappelle que nous, on a le Seigneur. Lui aussi, il s'occupera de juger les autres, ce n'est pas notre problème, mais on peut se réjouir parce qu'il est à nos côtés et on lui appartient. Donc, encourageons-nous à rester honnêtes, à vivre dans la paix, à rester joyeux, à rester plein de son esprit. Je t'ai toujours, puisque j'ai tout, puisque je t'ai.
Seigneur, fais-moi dès le matin entendre ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître les chemins où je dois marcher. Car j'élève à toi mon âme. Délivre-moi de mes ennemis, ô Éternel. Auprès de toi, je cherche un refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite.
Alors bonjour, donc je m'appelle Bertrand Gounon. Comme Daniel l'a indiqué, je suis futur pasteur à l'église de la Passerelle à Vevey. Je vais commencer dans 2 semaines. J'ai fait un stage d'une année là-bas jusqu'à cet été. Et puis j'ai été embauché pour poursuivre l'aventure à Vevey. Alors je suis très heureux d'être parmi vous ce matin. Merci pour votre invitation. Merci Roger. Merci pour votre accueil parmi vous. Très heureux de découvrir votre communauté. Donc je suis marié à Florie. Nous avons une petite fille qui s'appelle Salomé, qui va fêter son premier anniversaire dans un mois. Et puis voilà, je suis aussi étudiant, encore officiellement étudiant en théologie. Je termine mon master, ma deuxième année de master à la faculté d'Aix-en-Provence. Et puis voilà, dans une vie antérieure, j'ai fait du droit, puis j'étais conseiller fiscal. Voilà, donc un peu différent. Voilà, alors pour introduire la prédication de ce matin, une gloire éclatante même. Un palmarès unique avec 7 victoires sur le Tour de France, c'est juste du jamais vu. Mais derrière tout ça, eh bien, il y avait de la tricherie, des mensonges. Tout était faux. Et l'heure de la chute de Lance Armstrong a sonné, une chute retentissante. Alors vous savez, la Bible n'est pas le livre des super-héros. La Bible, eh oui, il y a le chien, il y a Superdog, oui. La Bible ne fait pas l'impasse, la Bible ne fait pas l'impasse sur la vie d'hommes et de femmes dont le destin pourrait à certains égards se rapprocher de la vie d'un homme comme Lance Armstrong. Et ce matin, eh bien, nous allons nous intéresser à l'un d'eux, un certain Abraham. Abraham. Et je vais lire un passage en Genèse 12, les versets 10 à 20. Genèse 12, les versets 10 à 20. Une famine survint dans le pays. Alors Abraham se rendit en Égypte pour y séjourner quelque temps, car la famine sévissait dans le pays. Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarai, sa femme, « Écoute, je sais que tu es très belle. Quand les Égyptiens te verront, ils se diront, « C'est sa femme !» Ils me tueront et ils te laisseront en vie. Dis-leur donc que tu es ma sœur, pour qu'on me traite bien à cause de toi. » Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. En effet, quand Abraham arriva en Égypte, les Égyptiens remarquèrent la grande beauté de sa femme. Des gens de la cour de Pharaon la remarquèrent et la vantèrent à leur maître, de sorte qu'elle fut enlevée et emmenée au palais royal. À cause d'elle, le Pharaon traita Abraham avec bonté. Il lui offrit des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel infligea de grands maux au Pharaon et aux gens de sa maison, à cause de Sarai, la femme d'Abraham. Alors le Pharaon fit venir Abraham et lui dit, « Pourquoi m'as-tu fait cela ? Pourquoi ne m'as-tu pas dit qu'elle était ta femme ? Pourquoi l'as-tu présentée comme ta sœur ? À cause de cela, j'en ai fait ma femme. Maintenant, voilà ta femme, reprends-la et va-t'en. » Et le Pharaon chargea ses gens de le reconduire avec sa femme et avec tout ce qu'il possédait. Fin de notre lecture. Alors d'abord, quelques mots sur le contexte de cet épisode. Ce qui précède notre passage, donc les versets 1 à 9 du chapitre 12, eh bien, c'est Abraham qui part de Haran, au nord de la Syrie actuelle. Et Abraham part de Haran pour rejoindre Canaan, pour descendre en Canaan. Ce sont les premières heures de la relation de Dieu avec Abraham. L'Éternel parle à Abraham. L'Éternel lui dit « pars » et il part sans broncher. Dieu lui fait une promesse incroyable. Une promesse de bénédiction pour lui, pour les siens, pour sa famille, et puis pour toutes les nations de la terre. Abraham reçoit cette promesse, il croit, et il se met en route, presque tout simplement, j'ai envie de dire. Il est à cet instant, avant notre passage, eh bien, l'homme de foi par excellence. L'homme de foi par excellence. Et arrivé en Canaan, au lieu où Dieu lui avait dit d'aller, eh bien, Abraham bâtit un autel à l'Éternel, et il prie. Voilà ce qu'il fait quand il arrive. Il y a donc une vraie relation, un dialogue qui existe entre Dieu et Abraham avant notre passage. Et puis ce qui suit notre passage, après le passage que j'ai lu, où Abraham est en Égypte, ce qui suit, donc à partir de Genèse 13, eh bien c'est un retour de l'Égypte pour Canaan. Et une des premières choses qu'Abraham fait en rentrant en Canaan, après le séjour égyptien, eh bien, c'est qu'il prie à nouveau l'Éternel, nous dit le texte. Et l'Éternel parle également à nouveau à Abraham. Il lui renouvelle même sa promesse. Et là aussi, après notre passage, eh bien, il y a à nouveau comme une vraie relation, un dialogue qui existe entre Dieu et Abraham. Mais en contraste avec ce qui précède et puis ce qui suit, eh bien, dans le passage que j'ai lu, dans ce séjour en Égypte, ce séjour en Égypte d'Abraham se distingue de manière très forte par le fait qu'à ce moment-là, la communication entre lui et Dieu semble comme être rompu. Ce n'est pas Dieu qui dit à Abraham de descendre en Égypte. Et Abraham ne prie pas, il ne cherche pas conseil auprès de Dieu. Alors voilà pour le cadre de notre épisode. Et je vous invite maintenant à voir en quoi cet épisode, ce séjour en Égypte, peut être résumé en un mot. Et c'est le mot « test ». Test. Car il me semble que trois tests peuvent se ressortir de ce passage. Enfin, voilà les trois tests que j'ai cru lire dans ce passage. Le premier, c'est le test de la foi, qui concerne Abraham vis-à-vis de Dieu. Le deuxième test, c'est le test de l'amour, qui concerne Abraham vis-à-vis de Sarah et sa femme. Et enfin, c'est le test de la grâce, qui concerne Dieu vis-à-vis d'Abraham. Alors allons-y pour le premier test, le test de la foi. Nous l'avons déjà dit au début du chapitre 12, Abraham vient de faire une entrée en scène remarquable. Sans discuter, nous dit le texte, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il est un modèle de foi, un vrai modèle de foi. Et ceci jusqu'à aujourd'hui même. Et ce que nous allons voir sur cet épisode d'Abraham en Égypte, eh bien, ça ne change rien à ça. La foi d'Abraham est d'ailleurs plusieurs fois prise en exemple dans le Nouveau Testament. Quand Dieu appelle Abraham, il lui fait une promesse. Mais mes amis, une promesse reste une promesse. Et face à une sévère famine, qu'est-ce qu'une promesse? Et même une promesse de Dieu? Devant lui, Abraham a des ventres affamés. Il a des corps à nourrir. À ce problème, Abraham apporte une réponse, sa réponse. Aller en Égypte, ou plutôt descendre en Égypte. Une descente en Égypte qui matérialise en quelque sorte sa propre descente intérieure. Abraham ne consulte pas Dieu. Il semble prendre la route de l'Égypte de son propre chef. Et en même temps, comment savoir si le choix qu'il fait est le bon ou pas? Quelle est la situation? Canaan n'offre plus de nourriture, alors qu'un pays voisin, immédiatement voisin, aurait de quoi les nourrir. A priori, personnellement, je trouve l'option égyptienne plutôt raisonnable. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais Abraham n'est pas seul. C'est un chef de famille, avec une famille nombreuse, avec du personnel. Des personnes dépendent de lui. Chercher un moyen de nourrir ceux dont il a la responsabilité me paraît précisément être une attitude responsable et raisonnable. Vous savez, bien souvent, Dieu ne parle pas explicitement, mais il nous demande de discerner sa volonté. Nous avons à discerner la volonté de Dieu. Nous avons des choix à faire en notre âme et conscience devant Dieu. Et ce n'est pas toujours simple, en tout cas pour moi. Après coup, les choses semblent tellement simples à évaluer. Mais quand on est face à un choix, c'est une autre histoire, non? C'est une autre histoire. Pas toujours simple de se décider pour une filière d'études, pour une formation professionnelle, pour un conjoint, pour un métier, pour une façon d'éduquer des enfants, pour le choix de telle église locale plutôt qu'une autre, etc., etc. Pour Abraham, nous connaissons la suite de l'histoire, et nous pouvons alors penser qu'il aurait dû rester en Canaan, qu'il aurait peut-être dû rester en Canaan, et croire que Dieu n'allait pas les laisser mourir de faim, malgré cette situation de famine. Mais j'insiste, les apparences peuvent être trompeuses. Et rien n'est évident dans cette affaire de départ pour l'Égypte. Et à aucun moment, d'ailleurs, le texte ne dit clairement qu'Abraham a commis un péché en partant pour l'Égypte. À n'en pas douter, Abraham subit ici un test de foi, au travers de l'adversité, en l'occurrence au travers de cette famine. Quand les circonstances nous sont favorables, frères et sœurs, il est assez simple d'avoir foi en Dieu, encore que. Mais quand les circonstances s'assombrissent, quand elles deviennent plus complexes, voire même éprouvantes, et des fois terriblement éprouvantes, alors la foi peut devenir beaucoup plus difficile. Elle peut même devenir un véritable combat. Ce matin, quelles sont tes famines? Quelles sont tes famines? J'ai mes famines. J'ai mes famines. Nous avons tous nos famines. Ces moments de notre vie où notre foi est testée, elle est éprouvée, elle est mise à nu. Qu'il s'agisse de famines dans le secret de notre vie intérieure, parfois tellement troublée, tellement remuée. De famines conjugales, de famines professionnelles, de famines sentimentales, de famines spirituelles, etc. Dans ces moments de famine, eh bien, la foi véritable, celle qui n'a pas grand-chose à voir avec la foi que nous professons parfois, en tout cas que j'ai parfois professé facilement, en parole et avec évidence, eh bien, dans ces famines-là, cette foi peut devenir, avec l'aide de Dieu, bien plus profonde, elle peut prendre un autre relief. Et en même temps, elle se dépouille des évidences, parce qu'alors dans ces moments-là, la foi n'est pas du tout évidente. Et visiblement, Abraham en est là à ce moment donné de sa vie. S'il a pu manifester une foi à couper le souffle, et il l'a fait, on l'a vu au début du chapitre 12, une foi à couper le souffle juste quelques temps auparavant, et bien le voilà maintenant, face à l'adversité, en train d'essayer de s'en sortir tout seul. En train de douter que Dieu puisse les nourrir malgré la famine. Abraham, tel est cet homme, plein de foi, mais aussi plein de doutes. Et mes amis, tels sommes-nous, plein de foi parfois, mais aussi parfois plein de doutes. Regardons les choses en face. Notre foi, notre confiance en Dieu est parfois bien grande, mais aussi parfois bien petite. Alors que l'exemple d'Abraham, et encore une fois, c'est pas quelqu'un d'anodin, Abraham, dans la Bible, et vous le savez. Bien que son exemple puisse nous aider ce matin à accepter de manière lucide et honnête cette double réalité de notre vie de foi. Et j'en viens maintenant au deuxième test, le test de l'amour. Le stratagème qu'Abraham met en place a de quoi laisser perplexe. Franchement, c'est fou. Un premier détail m'interpelle. Au verset 11, il est écrit « Lorsqu'il approchait de l'Égypte, il dit à Sarah et sa femme, « Dis-leur donc que tu es ma sœur. » Ce détail, c'est « Lorsqu'il approchait de l'Égypte. » C'est comme si son intuition lui était venue en chemin. Plus Abraham s'approche de l'Égypte, plus il raisonne mal. Ensuite, dans ces quelques versets, il y a comme un renversement burlesque. D'un côté, Abraham vient en Égypte pour obtenir ce qui est rare en Canaan, du blé. Et de l'autre côté, du fait de la réaction immédiate des ministres du Pharaon face à la beauté de Sarai, on a l'impression que Sarai est, de par sa beauté, d'une rareté exceptionnelle. Et nous comprenons alors vite quelle triste monnaie d'échange sera utilisée par les protagonistes. Rareté contre rareté, c'est la loi du marché. En l'occurrence, du blé contre Sarai. Et c'est là que le burlesque s'arrête pour laisser place à la tragédie. Abraham ment. Il ment en voulant faire passer sa femme pour sa sœur. Alors en fait, c'est une demi-vérité. Comme Abraham le dit lui-même à Abimélec en Genèse 20, dans un épisode semblable à celui que j'ai lu, il est dit en Genèse 20, « Il est vrai qu'elle est ma sœur. Elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. » Alors Sarai a beau être demi-sœur d'Abraham, elle est devenue sa femme. Alors oui, c'est une demi-vérité. Mais devant Dieu, une demi-vérité, c'est pas un demi-mensonge. Non, c'est un mensonge. En l'occurrence, Abraham ment délibérément, en voulant faire passer, en voulant nier le fait que Sarah soit sa femme, et elle l'est vraiment. Et ni une ni deux, Sarah y est embarquée dans le palais du Pharaon. Et en échange de sa femme, Abraham se voit gratifié, enfin payé, de quoi ? Des moutons, des chèvres, des bovins, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. N'est-ce pas consternant? C'est une fortune bien mal acquise qu'Abraham se constitue en Égypte. Le patriarche fidèle s'efface ici complètement devant le mari minable. Minable. Prêt à troquer sa femme au profit du pharaon. Alors certes, il est sans doute hasardeux de se prononcer sur les relations conjugales qu'entretenaient Abraham et Sarah il y a environ 4000 ans. Mais quand même, comment minimiser son peu de considération, son peu d'amour à ce moment-là? Abraham n'avait d'ailleurs pas caché ses intentions à sa femme. Nous avons lu au verset 13. « Dis-leur donc que tu es ma sœur. Pourquoi ? Pour qu'on me traite bien à cause de toi. Ainsi, grâce à toi, ma vie sera épargnée. » Et Sarah est dans tout ça ? Quel égoïsme ! Moi, qui compte ? Peu importe ma femme. Abraham sait où sont ses intérêts personnels. Il ne s'en cache pas. En Égypte, Sarah n'apparaît plus sous les traits d'une épouse. Elle devient monnaie d'échange, instrument de salut pour son mari. Alors, pour les personnes qui sont en couple parmi nous ce matin, bien, je crois qu'il y a quelque chose à entendre là, derrière cet exemple certes extrême. Nos choix individuels ne peuvent pas se faire au détriment de notre couple. Et bien entendu, nous ne pouvons pas nous servir de notre conjoint pour parvenir à tout prix à nos fins personnelles. Être en couple, c'est certes un bonheur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Celle d'écouter son conjoint, d'accueillir ses envies, ses rêves, ses attentes, qui peuvent être différentes des nôtres. C'est aussi important d'en tenir compte, non seulement de les écouter, mais d'en tenir compte, et ce n'est pas toujours facile. Ceux qui sont en couple le savent très bien. Franchement, c'est pas toujours facile pour moi vis-à-vis de Fleury, mon épouse. Quoi qu'il en soit, Abraham échoue bel et bien à ce test de l'amour. Abraham, tel est cet homme, tantôt magnifique, tantôt bien médiocre. Et mes amis, nous aussi, nous sommes parfois magnifiques et parfois bien médiocres. J'en viens au troisième test, qui est le test de la grâce, le dernier test. Globalement, les protagonistes dans cette affaire n'ont aucune gloire à retirer dans le passage que nous avons lu. Excusez-moi. Chacun manifeste un certain degré de faiblesse, de fragilité. Pour Abraham, c'est la chute, mais pour le pharaon, ce n'est pas très glorieux non plus. Heureusement, cette triste aventure n'est pas laissée à la seule main des hommes. Non, à partir du verset 17, Dieu reprend les choses en main. Et en dépit des apparences, eh bien, c'est le Dieu de grâce qui intervient, le Dieu de grâce. Devant la chute de celui qu'il a appelé et auquel il a fait une promesse incroyable, l'Éternel aurait parfaitement pu exercer une juste condamnation. Mais il n'en est rien. Au contraire, au lieu de condamnation, Abraham continue d'être protégé par l'Éternel. L'Éternel a promis et l'Éternel va secourir Abraham et les siens du Pharaon, en poussant le Pharaon à la laisser rentrer en Canaan. Abraham va retrouver sa femme et va être expulsé d'Égypte pour remonter en Canaan. De même, Abraham va comme intérieurement remonter après avoir chuté. Sa place est en Canaan, dans le pays de la promesse divine. C'est là qu'il doit être. Il y a là à nouveau un effet de surprise dans le texte, quand le Pharaon semble parler à la place de l'Éternel. En Genèse 12:1, Dieu avait dit à Abraham, « Va-t'en de Haran en Canaan. » Et cette fois, en Genèse 12:19, c'est le Pharaon qui lui dit, « Va-t'en d'Égypte en Canaan. » Comme si Abraham n'avait pas bien compris l'ordre divin, Dieu utilise le Pharaon pour, comme messager pour répéter son ordre. Sa place est en Canaan. Et c'est bel et bien le Dieu de grâce qui est à l'œuvre dans cet épisode de la vie du patriarche Abraham. Une grâce qui peut nous heurter, à première lecture, une grâce qui bouscule nos conceptions. En effet, n'est-il pas quelque part choquant qu'Abraham, le grand fautif dans cette histoire, ne soit pas puni ? Un petit peu quand même. Pire encore, Abraham s'est enrichi en Égypte. Quoi qu'il en soit, le test de la grâce de Dieu est remporté haut la main par l'Éternel. Fallait-il en douter ? Abraham s'est bien vite montré infidèle. Bien vite. Et dans un contraste saisissant, l'Éternel est lui fidèle au-delà de toute attente. Dieu a fait grâce à son serviteur Abraham, malgré la faiblesse de sa foi. Malgré son comportement fautif, Dieu lui a fait grâce. Et mes amis, il en va exactement de même pour chacun d'entre nous ce matin. Heureusement que Dieu use de grâce envers moi. Heureusement. Et heureusement qu'il le fait pour chacun d'entre nous. Comme nous avons besoin de la grâce de Dieu, à chaque instant. Cette grâce de Dieu, imméritée, gratuite, généreuse, oh, saisis-la ce matin. Saisis-la pour ta vie, la grâce de Dieu. Cette grâce de Dieu qui a un nom pour nous ce matin, pour toi ce matin, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Que ce sombre épisode de la vie du patriarche Abraham nous aide à mieux accepter et incarner la réalité de notre foi dans ses grandeurs, et il y en a, mais aussi dans ses faiblesses, et il y en a aussi. Et cela devant le regard d'amour et de grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Les confessions de foi, et j'en terminerai par là, les confessions de foi ont bien des mérites. Mais personnellement, je me demande si elles ne gagneraient pas à faire place, une petite place, à une certaine confession d'incrédulité. À la manière de ce Père qui fait face au Christ, sauveur de son enfant, en Marc 9, 24, ce Père qui s'exclame au Seigneur Jésus, « Je crois ! Je crois ! Viens au secours de mon incrédulité. » Mes amis, n'ayons pas peur quand cela correspond à ce que nous ressentons, à ce que nous vivons intérieurement, vraiment. Bien, n'ayons pas peur de laisser jaillir cette honnête et lucide confession de foi et d'incrédulité. Seigneur, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Amen.